histoire particulière. Située à seulement 35 minutes de Chambéry et à 1 heure de Lyon, Bourg-en-Bresse, Grenoble ou Annecy, la Maison d'Izieux est un lieu unique qui rend accessible à tous une histoire contemporaine complexe. La Shoah en France durant la Seconde Guerre mondiale, la naissance d'une justice internationale et son fonctionnement jusqu'à nos jours, la construction d'une mémoire des crimes contre l'humanité. Nous partons y rencontrer l'une des personnalités majeures de ce lieu de mémoire.
Je me présente. Je suis Sabine Zlatin et j'étais infirmière militaire de la Croix-Rouge française depuis 1940. En avril 1943, avec mon mari, Miron, nous avons fondé la maison d'enfants d'Izieux pour y recueillir des enfants juifs orphelins.
Sabine Zlatin, la dame de la maison d'Izieux.
La dame d'Izieux, un documentaire de Federico Polo Devoto et Yael Mandelbaum. Premier épisode, la vie à la colonie. Samuel Pintel, vous avez séjourné enfant à la colonie d'Izieux. Vous êtes arrivé en novembre 1943 là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous vous êtes retrouvé à la maison d'Izieux?
J'arrive à la maison d'Izieux à la suite d'une rafle menée par la Feldgendarmerie à Annecy, dans un lieu où je me trouvais avec ma mère assigné à résidence. Le commandant allemand qui avait la liste interrogeait individuellement, nous étions en file, et si votre nom figurait sur la liste, vous étiez en état d'arrestation et monté dans le camion. Et par miracle, à ma gauche se trouvait une jeune femme. Et ma mère m'a haché la main, et m'intimant l'ordre de ne pas la suivre. Tu ne viens pas avec moi. Prends la main de la jeune dame qui est à tes côtés. Un regard, un échange de regard entre ma mère et cette jeune femme qui accepte de me prendre la main. Le nom de ma mère figure sur la liste, elle est arrêtée. L'Allemand ne m'a pas demandé mon nom, mais il a demandé le nom à ma protectrice. Son nom ne figurait pas sur la liste, elle n'était pas juive. Les Allemands n'arrêtaient que les Juifs. Qui est cet enfant? C'est mon fils. Alors mettez-vous à l'écart. Voilà. Et cette jeune femme a pris de gros risques. Je lui dois, comme on dit, l'air que je respire aujourd'hui. Voilà, le mot d'ordre était, en cas de malheur, et c'en était un, il faut rejoindre, pour un appui, une aide, aux membres d'un bureau de l'OSE, Organisation Secours aux Enfants, qui se trouve à Chambéry. Cette jeune personne m'a emmené à Chambéry et m'a confié aux personnes de ce bureau, qui était en lien avec la direction de la maison d'Izieux. Et j'ai fait donc le transfert pour arriver à Izieux le 18.
Et il faut revenir à ce qu'est l'OSE.
Cathy Hazan, historienne.
C'est la principale des œuvres juives qui s'est occupée du sauvetage des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment ? D'abord en ouvrant des maisons d'enfants dans la zone dite libre, pas en zone occupée. Justement parce qu'elle avait compris que c'était trop dangereux. Et les dernières maisons qu'elle va ouvrir, qui seront dans l'année 43, ce sont celles de la zone d'occupation italienne, c'est-à-dire tout l'est de la France. Et en particulier deux grandes maisons, celle de Saint-Paul-en-Chablais, la Chaumière, et un petit peu plus à l'est dans l'Ain, celle d'Izieux. Et donc, chaque maison a son histoire, chaque maison a eu ses héros anonymes, et Izieux est une parmi ces 14 histoires.
Comment est-ce que vous avez fait, Samuel Pintel, le trajet depuis Chambéry jusqu'à Isieux ?
Alors, une personne était venue nous chercher. Je dis nous parce que j'ai retrouvé un de mes petits copains dans ce bureau.
Qui était ce monsieur ?
Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas qui était ce monsieur. Non, toujours est-il que... Donc, ce monsieur est venu nous chercher, son vélo dans la cour, avec une carriole accrochée au vélo. On a retrouvé une photo de la carriole. C'était un cachot à roulettes. Nous installons la carriole et nous roulons. Et nous roulons longtemps. Accroupi dans la carriole, peut-être une couverture sur le dos.
Est-ce qu'on peut imaginer que la personne sur son vélo avec la carriole était Miron Zlatin ?
Je l'ai appris 50 ans plus tard, en retrouvant Madame Zlatin. Quand je lui ai raconté cette anecdote, elle m'a dit « Mais le monsieur, mais c'était mon Miron, c'était mon mari, bien entendu. »
Et donc, Miron Zlatin sur son vélo, vous emmenez, vous et votre ami, deux enfants, 40 km de montagne jusqu'à Isieux.
Il est parti le matin nous chercher à vide. Et revenu avec deux gamins dans la carriole, qui représente une charge non négligeable. Et je me souviens qu'on escaladait une pente. Et c'était très long, je me souviens, c'était très long. Hein, je fermais les yeux en disant, bon, je vais garder les yeux fermés et quand je les rouvrirai, on sera arrivé. C'était interminable. Il a certainement pris le col de l'épine, 1000 mètres, hein, pour tirer deux gamins. C'était vraiment Miron, hein, je dis. Hein, Miron, c'était Dieu. C'était vraiment un type exceptionnel.
Samuel Pintel, quand vous arrivez à la maison d'Isieux, quelles sont vos premières impressions ?
Mon petit copain et moi, Marcel, j'ai retrouvé son nom après, c'est une autre histoire. Nous arrivons dans une maison qui où se trouve 40 enfants et plus. C'est exubérant, il y a une vie. Et nous arrivons dans un état quand même pas très serein. Hein. C'était un jeudi, en fait, et pas classe. Donc... Et comme nous étions déjà mi-novembre, tout le monde était dans la maison et attendait. Voilà, et nous arrivons.
Alors, on est dans l'Ain, ici, dans le département de l'Ain. Et on est au sud du Bugey, donc c'est un territoire...
Stéphanie Boissard.
Rural, et puis...
archiviste de la maison d'Isieux.
Effectivement, là où les enfants ont pu être un peu à l'écart des grandes villes, on va dire, et en sécurité, quoi. On est sur les derniers contreforts du Jura, donc on a quand même un paysage un peu vallonné. Hein. C'est pas la haute montagne, mais d'ailleurs les enfants disaient qu'ils étaient à la montagne. Donc il y a cette idée de relief un peu marqué quand même. On est un petit peu au bout du monde. Hein. Il y a une route qui monte, je dirais à peu près au niveau du Rhône, hein, puisqu'on voit le Rhône qui passe de la terrasse devant la maison, on voit bien le Rhône. On est à quoi, 300-400 mètres ici, on n'est pas très haut, mais quand on monte, on a le sentiment effectivement du fait que l'on parte du niveau du fleuve, ben, ça donne une impression effectivement d'avoir quand même fait quelques dénivelés, voilà.
Voilà, c'est une maison qui en impose. Il y a d'abord le corps principal dans lequel nous nous trouvons, puis il y a aussi la magnanerie au-dessus, et la grange en contrebas, qui forme un ensemble vraiment très harmonieux. Voilà, là on est dans le hall d'entrée. Je vous propose de monter.
Dominique Vidot, directeur de la maison d'Isieux.
Et on arrive... dans la salle de classe. C'est la pièce la plus éclairée de la maison. Sabine l'avait choisie avec soin, parce qu'il fallait absolument avoir les meilleures conditions d'études. C'est tout un programme aussi d'avoir choisi la plus belle pièce de la maison. Leur donner une vraie éducation, une instruction, comme on disait à l'époque, c'était leur faire le plus beau cadeau, évidemment, pour qu'ils puissent, devenus adultes, avoir une vie construite et heureuse. Sabine aurait pu se contenter, comme beaucoup d'autres maisons d'enfants de l'époque, de faire confiance à ses éducatrices et ses éducateurs. Il y en avait, qui étaient tout à fait capables d'enseigner. Mais elle voulait quelqu'un de l'éducation nationale, qui soit français, qui est le diplôme, qui est la possibilité vraiment de prendre ses enfants et d'en faire des citoyens français, comme dans n'importe quelle école de France. Voilà. Et pour arriver à ce résultat, il a fallu qu'elle déploie des trésors d'énergie et de persuasion. Et au départ, la réaction des autorités, notamment le sous-préfet Wilser, ça a été de dire il faut que les enfants aillent à l'école à Izieux. Mais à Izieux, il n'y avait pas de place pour eux. Et c'est ce que Sabine a plaidé. Il n'y avait pas suffisamment de place dans l'école d'Izieux pour accueillir une trentaine d'enfants. Donc Sabine a fait le siège du sous-préfet Wilser pour qu'il intercède auprès de l'inspection académique de Bourg-en-Bresse. Et à force de persuasion, il a réussi à obtenir la mise à disposition d'une maîtresse, Gabrielle Perrier, 22 ans, premier poste, qui va découvrir les joies du métier devant une classe dans laquelle les élèves n'étaient jamais tout à fait les mêmes, puisqu'il y avait des arrivées et des départs. Ils n'avaient pas le même âge, mais ça, dans les classes de campagne, c'était pas tout à fait exceptionnel. Et puis, plus compliqué quand même, la prise en charge d'enfants qui avaient des niveaux de langue très différents les uns des autres. Entre eux, bien sûr, il y avait ceux qui avaient été scolarisés en France ou en Belgique, et qui parlaient parfaitement français, et il y en avait d'autres qui ne parlaient quasiment pas. La difficulté pour Gabrielle, c'est effectivement que ses enfants, elle ne sait pas combien de temps ils vont rester. D'autres vont arriver, et elle l'a dit par la suite, c'est surtout ça, ce mouvement incessant qui la perturbait et qui rendait compliqué pour elle la planification des travaux, par exemple, et des devoirs. Puisqu'on sait bien qu'un apprentissage, ça demande du temps, de la maturation, et donc elle n'était jamais sûre de pouvoir aller au bout de ces processus, quoi.
Chère maman, j'ai bien reçu ton colis et ta carte, qui m'a fait beaucoup plaisir. Ici, je suis en bonne santé. La classe est bien garnie. Il y a des dessins accrochés au mur. J'ai fait un dessin qu'on a accroché au mur. Il y a deux tableaux, des cartes de géographie. Je termine ma lettre en t'envoyant des milliards de milliards de baisers. Ton fils qui t'aime beaucoup. Georgie, 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 Georgie.
À quoi ressemblait une journée classique, le quotidien, à Izieux, Samuel Pintel?
Le lever de bonne heure, on le sait, par une lettre laissée par le petit Georgi Alper, un enfant qui est passé par la maison d'Izieux. La classe, c'est 8 heures, donc le lever, c'est 7 heures. Il faut aller se débarbouiller. Il n'y a pas d'eau dans la maison. Alors, nous occupons, tu dis les garçons, le dortoir, le bâtiment annexe, il faut descendre, il y a un bassin. Alimenté par une source, il faut aller faire sa toilette dans l'eau du bassin. Le matin, il fait nuit, encore, l'eau est froide, parfois on trouve une pellicule de glace sur l'eau du bassin, donc la toilette c'est quelque chose qui est vite fait. Et on rentre à la maison au chaud pour le petit déjeuner, copieux. Et ensuite la classe, mais répartie en 5 niveaux. Nous sommes, Marcel et moi, dans le cours élémentaire, mais il y a le cours élémentaire ou le cours préparatoire, et puis il y a le cours moyen, cours moyen 1, cours moyen 2, puis on va comme ça jusqu'au cinquième, 5 niveaux. Donc il y a des grands. Hein, voilà. Donc ça occupe la journée. Hein. Bon, à l'exception du jeudi, qui était traditionnellement la journée non scolarisée, et puis le dimanche.
On imagine dans une salle de classe avec une trentaine d'élèves de
30 élèves à peu près.
30 élèves de 5 niveaux différents, oui. Ça devait chahuter pas mal.
Ça chahutait pas. Ça chahutait pas. Alors l'institutrice que j'ai retrouvée par la suite, Gabrielle Perrier, dont c'était le premier poste, un petit peu dépassé par la charge, devait consacrer du temps à chacun d'eux. Le matin, je trouvais mon cahier qu'elle me remettait avec un travail à effectuer. Alors à mon niveau, c'était des mots à recopier, des petites phrases à construire, peut-être une petite rédaction et des opérations à effectuer. Je me demande encore comment j'ai fait pour j'avais pas de mémoire, j'avais pas de difficulté à faire ce qu'elle me demandait. Pourtant, j'ai eu un parcours assez tourmenté. Hein. Mais lorsque c'était fini, que faire? Elle n'était pas là pour vérifier, où il fallait attendre plusieurs heures avant qu'elle revienne individuellement vérifier ce que j'avais fait, éventuellement me donner un complément de travail à faire. Donc il fallait surtout pas chahuter, surtout pas bavarder. Alors que faire? Eh bien, ceux qui avaient encore, et ils n'étaient pas nombreux, des parents pouvaient écrire. Alors, ils n'étaient pas nombreux. Hein. La majorité des gamins, des filles et enfants, les garçons qui se trouvaient là, étaient déjà orphelins. Hein. Les parents sortis des camps, les parents arrêtés, déjà déportés, ou alors on ne sait où. Ceux qui avaient des crayons de couleur et du papier, parce qu'il fallait avoir les papiers pour faire des dessins. Bon, ceux qui étaient bien équipés pouvaient réaliser ces dessins. Sinon, les autres dessinaient sur ce qu'ils pouvaient en noir et blanc. Mais il y a une prolifération de dessins. Et deux d'entre eux, les gamins, Max Stettelbaum et Otto Wertheimer, c'était son nom, il était d'origine allemande. Il signait ses dessins de Octave Vermeil, qui dessinait très bien ces deux-là et qui nous ont laissé des documents magnifiques.
Il y a cette série peut-être là de Max Stettelbaum, vous voyez, celui-là avec un loup et donc une cigogne. La charge sensible est très forte, c'est-à-dire que n'importe quoi, n'importe quel mot écrit, même des choses très prosaïques, prennent tout de suite une force terrible, notamment parce que les enfants souvent s'échangeaient entre eux des petits mots. Qui aujourd'hui pourrait nous faire sourire, mais en réalité, quand ils s'échangent des mots et que des petites filles se disent entre copines, bon, c'est la guerre sera bientôt finie et ensuite on se retrouvera et tu retrouveras tes parents, etc. On sait bien nous qu'il n'y a pas d'après. On voit bien ce qui se passe.
J'étais fils unique à l'époque, donc me retrouver du jour au lendemain parmi 50 autres enfants, ça occupe. Hein.
Samuel Pintel.
J'ai appris à faire des tas de choses, à plier des papiers, à jouer avec des cartes. Ceux qui avaient la possibilité d'avoir des cartes, des dominos ou des jeux de ce genre, les échangeaient, on participait. Le jeudi ou le dimanche, c'était des promenades généralement hein, sur les hauteurs. Dans la partie boisée, ou alors en contrebas, sur les bords d'un cours d'eau. Mais pour rejoindre le cours d'eau, il faut marcher, et ça occupait beaucoup de temps pour des gamins, des petits gamins à pied. Mais c'était la promenade, et ça m'avait laissé des souvenirs impérissables. Alors il y avait les chants également, c'est important. Il y avait deux adolescents. Théo Reiss et Arnold Hirsch, qui eux aussi seront déportés, qui eux faisaient un petit peu, essayaient de maintenir l'ordre, parce que ça chahutait quand même pas mal, et apprenaient des chants.
Quel chant est-ce que vous en avez encore en tête, en mémoire?
Alors j'ai en mémoire, quand on a retrouvé les choses bien après, avec les anciens passés par la colo, j'avais évoqué ça, ce souvenir-là, les chants, mais nous on chantait. Moi je me souviens de chansons de marins, hein, brave marin. Et puis chantons pour passer le temps également. Il y avait des enfants d'origine allemande, également des chants en allemand. Ça paraît surréaliste, mais enfin bon. Bref. Voilà, on chantait, on jouait. Et alors le soir, dans le dortoir, les deux grands racontaient des histoires. Et puis on interrogeait. Alors je me souviens d'une question qui était, pourquoi l'hiver, les jours sont plus courts que les nuits. Voilà, bonne question.
Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Ici, à la maison d'Izieux, comment est-ce qu'ils vont se répartir les tâches entre Miron et Sabine Zlatin?
Miron Zlatin, c'est vraiment l'intendant, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre pour faciliter la vie pratique. Donc c'est tout ce qui est le ravitaillement, ce qui n'est pas simple en temps de guerre. Donc c'est avec son vélo, faire le tour des fermes alentour, des commerçants, de tout ce qu'il est possible, enfin de tout fournisseur alimentaire possible. Et donc il fait des kilomètres sur sa bicyclette avec un petit chariot derrière accroché. Et donc ça c'est vraiment le travail de Miron. C'est aussi trouver du cuir pour réparer les chaussures des enfants. C'est trouver des crayons, de la couleur, de la gouache. Donc c'est aussi toute cette intendance qui permet aussi aux enfants d'avoir une vie d'enfant où on peut dessiner, où il y a de la peinture, ce genre de choses. Hein. Donc vraiment l'intendance, c'est Miron. Et là lui il est là tout le temps dans la maison, mais sous ce registre vraiment de régler tous les problèmes pratiques. Et il a un établi aussi, donc il répare. Et vraiment, oui, c'est ça son travail. Sabine Zlatin, elle est là, mais beaucoup moins souvent, parce qu'elle continue à être assistante sociale à Montpellier pour gérer les personnes qu'elle a placées à Montpellier. Elle suit encore ses familles où elle a mis des enfants, par exemple. Donc, oui, ce qui peut paraître étonnant, parce que les trajets, à l'époque, c'est quand même pas simple. Mais Madame Zlatin n'est pas très souvent là. En revanche, Miron est toujours là.
C'est lui qui fait fonctionner la maison. Alors, n'enlevons rien à la position exceptionnelle, l'importance capitale de Madame Sabine Zlatin, qui était plutôt relation extérieure. Et donc, Miron, là, c'est lui, le maître à bord. Et il ne faut pas l'oublier. On rend hommage à Madame Zlatin, oui, il le faut. Mais n'oublions pas, associons Miron Zlatin, payé de sa vie. Miron Zlatin a été arrêté, déporté, et n'est pas revenu.
Les enfants qu'elle reçoit, et jusqu'à la fin, ce sont des enfants de Lozé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sont des enfants de Lozé? Simplement que Lozé finance, pour chaque enfant, donne de l'argent pour son entretien.
C'était, environ 750 francs de l'époque par mois par enfant, qui permettait de tourner, de faire tourner la maison, et permettait à... Couple Zlatin d'approvisionner. Il y a quand même à un moment plus de 60 enfants. On en a répertorié 105 au total qui sont passés par la maison. Et bon, hélas, 44 sont allés au terme et ont été arrêtés, déportés, mais reste 61.
Les Italiens se retirent de la guerre en septembre 43, en tout cas pour ce qui concerne leur présence en France. Les Allemands investissent la zone italienne et sachant parfaitement qu'il y a de nombreuses organisations de sauvetage et de nombreuses familles juives qui se sont réfugiées dans cette zone depuis novembre 42. Donc à partir de septembre 43, la situation devient tendue.
Donc les maisons d'enfants de la zone d'occupation italienne vont être dans le collimateur des Allemands. Alors, en février 1944, vous voyez, on est loin dans le temps de la guerre, tout le bureau de Chambéry de Lozé est arrêté par la Gestapo. Et le directeur du bureau a le temps d'envoyer un télégramme codé à Lozé clandestine, en disant « Fermez tout, les Allemands sont au courant de tout ce qu'on fait. »
Les membres du bureau de Lozé, de Chambéry, ont été arrêtés le 8 février par les Allemands et déportés. Donc, les aides attribuées aux enfants pour février, il ne les a pas perçues, ni celles de mars. Et donc, la maison va tourner dans des conditions maintenant très difficiles. Miron va certainement faire tout son possible, et il l'a fait, pour continuer à approvisionner la maison avec du stock qu'il a. En février, il y avait encore des pommes de terre, en quantité suffisante pour passer quelques semaines, certainement. Il restait des choux également, mais bon, la soupe aux choux, hein, c'était une tradition.
Sabine est très inquiète. Et elle décide donc, fin mars, de quitter Izieux pour retourner à Montpellier, où elle avait vécu 3 ans et où elle connaissait beaucoup plus de monde qu'à Belley et dans ce secteur du Bugey. Et c'est lorsqu'elle est à Montpellier qu'elle apprend, par un message codé, la rafle.
Donc il y a 45 enfants qui sont raflés, il y a un enfant qui va descendre à Brignais-Cordon, il était là au titre de l'aide sociale. Donc ce petit Vucher, lui, il est reconnu lors d'une halte pour faire le gazogène, remettre du charbon sur le camion, à Brignais-Cordon en bas, sa tante le reconnaît. Et elle dit, mais c'est un enfant d'ici, il n'est pas juif. Et donc... les Allemands le laissent, apparemment, le laissent descendre. Et donc, en fait, on a 44 enfants qui sont ensuite déportés, internés. Enfin, ils vont être internés le soir à Montluc avec les 7 éducateurs. Et ensuite, ils vont le lendemain partir sur Drancy. Voilà. Donc, aucun enfant ne revient. Seule Léa Fellblum, qui était une des monitrices, reviendra d'Auschwitz. Après la libération du camp.
C'était La Dame d'Izieux, premier épisode, La vie à la colonie. Avec Stéphanie Boissard, archiviste de la maison d'Izieux, Cathy Hazan, historienne, Samuel Pintel, ancien enfant de la colonie, et Dominique Vidot, directeur de la maison d'Izieux. Lecture, Antoine Leca. Merci à la Maison d'Izieux, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et à la Bibliothèque nationale de France. Prise de son, Johanna Gabric. Mixage, Manuel Couturier. Documentation INA, Emmanuel Lucioni. Un documentaire de Federico Polo Devoto, réalisé par Yaël Mandelbaum.